Chapitre 3. Péricourt s'était fait faucher en pleine course. La balle lui avait fracassé la jambe, il avait poussé un hurlement de bête, s'était effondré dans la boue. La douleur était insupportable. Il s'était tortillé et retourné dans tous les sens en continuant de crier, et comme il n'arrivait pas à voir sa jambe qu'il serrait à deux mains au niveau de la cuisse, il s'était demandé si un éclat d'obus ne la lui avait pas sectionnée. Il fit un effort désespéré pour se soulever un peu, il y parvint, et malgré les terribles élancements, il fut soulagé, sa jambe était bien là, entière. Il apercevait le pied tout au bout, c'était au-dessous du genou que s'était écrabouillé sa picelle sang, il pouvait remuer un peu le bout du pied. Il souffrait comme un damné, mais ça bougeait. Malgré le boucan, les balles qui sifflaient, les shrapnels, il pensa « j'ai ma jambe ». Il en fut rassuré parce qu'il n'aimait pas l'idée de devenir unijambiste. On disait parfois « le petit Péricourt » pour jouer avec le paradoxe, parce que pour un garçon né en 1895, il était extrêmement grand. 1,83 m, vous pensez, c'était quelque chose. D'autant qu'avec une taille pareille, on a vite l'air maigre. Il était déjà comme ça à 15 ans. À l'institution, ses camarades l'appelaient le géant et ça n'était pas toujours bienveillant, il n'était pas très aimé. Édouard Péricourt, le genre de type qui a de la chance. Dans les écoles qu'il fréquentait, tous étaient comme lui, des gosses de riches à qui rien ne pouvait arriver, qui entrait dans l'existence bardée de certitudes et d'une confiance en soi sédimentée par toutes les générations d'ascendants fortunés qui les avaient précédés. Chez Édouard, ça passait moins bien que chez les autres parce qu'en plus de tout ça, il était chanceux. Or, on peut tout pardonner à quelqu'un. La richesse, le talent, mais pas la chance, non, ça, c'est trop injuste. En fait, sa veine était avant tout un excellent sens de l'autoconservation. Quand le danger était trop grand, que la tournure des événements devenait menaçante, quelque chose le prévenait, il avait des antennes et il faisait le nécessaire pour rester dans la course sans y laisser trop de plumes. Évidemment, voir comme ça Édouard Péricourt allongé dans la gadoue le 2 novembre 1918 avec une jambe en bouillie, on peut se demander si la chance ne vient pas de tourner et dans le mauvais sens. Eh bien, en fait, non, pas tout à fait, parce qu'il va garder sa jambe. Il boitera le restant de ses jours, mais sur deux jambes. Il retira rapidement son ceinturon, il en fit un garrot qu'il serra très fort pour arrêter l'hémorragie. Puis, épuisé par cet effort, il se relâcha et s'allongea. La douleur se calma un peu. Il allait devoir rester là un moment et il n'aimait pas cette position. C'était une idée qui courait fréquemment à cette époque. La nuit, les Allemands sortaient de leurs tranchées pour venir achever les blessés à l'arme blanche. Pour relâcher ses muscles, Édouard poussa sa nuque dans la boue. Il ressentit un peu de fraîcheur. Ce qu'il y avait derrière lui, maintenant, il le voyait tout à l'envers, comme s'il était à la campagne, allongé sous les arbres, avec une fille. C'est une chose qu'il n'avait jamais connue, avec une fille. Celle qu'il avait croisée, c'était surtout celle des Boxons du côté des Beaux-Arts. Il n'eut pas le loisir de remonter plus loin dans ses souvenirs, parce qu'il aperçut soudain la haute dégaine du lieutenant Pradel. Quelques instants plus tôt, le temps de tomber, de se rouler par terre de douleur et de faire son garrot, Édouard avait laissé tout le monde en train de courir vers les lignes boches, et voilà le lieutenant Pradel à 10 mètres derrière lui, debout, immobile, comme si la guerre s'était arrêtée. Édouard le voit de loin, à l'envers et de profil. Les mains posées sur le ceinturon, il regarde ses pieds. On dirait un entomologiste penché sur une fourmilière, imperturbable au milieu du fracas, olympien. Puis, comme si l'affaire était terminée ou qu'elle ne le concernait plus, peut-être a-t-il achevé son observation, il disparaît. Qu'un officier s'arrête en pleine charge pour regarder à ses pieds, c'est tellement étonnant qu'un instant, Édouard ne sent plus la douleur. Il y a là quelque chose d'anormal. Déjà, qu'Édouard se fasse écraser une jambe, c'est surprenant. Il a traversé la guerre sans une éraflure, se retrouver cloué au sol avec une jambe en capilotade, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais, à la limite, dans la mesure où il est soldat et qu'on est dans un conflit passablement meurtrier, être blessé, c'est quand même dans l'ordre des choses. En revanche, un officier qui s'arrête sous les bombes pour observer ses pieds, Péricourt relâche ses muscles, retombe sur le dos, tâche de respirer, les mains serrées autour de son genou, juste au-dessus du garrot improvisé. Quelques minutes plus tard, c'est plus fort que lui, il se cambre, regarde de nouveau l'endroit où le lieutenant Pradel se tenait debout il y a quelques instants. Rien. L'officier a disparu. La ligne d'attaque s'est encore avancée, les explosions se sont éloignées de plusieurs dizaines de mètres. Édouard pourrait en rester là, se concentrer sur sa blessure. Par exemple, il pourrait réfléchir pour savoir s'il vaut mieux attendre les secours ou tenter de se traîner vers l'arrière. Au lieu de quoi, il demeure cambré comme une carpe sortie de l'eau, les reins creusés, le regard rivé à cet endroit. Enfin, il se décide, et là, c'est très dur. Il se soulève sur ses coudes pour ramper à reculons. Sa jambe droite ne répond plus, tout à la force des avant-bras, avec juste l'appui de la jambe gauche, l'autre traîne dans la gadoue comme un membre mort. Chaque mètre est un effort, et il ne sait pas pourquoi il agit ainsi. Il serait incapable de le dire, sauf que, ce Pradel est un homme vraiment inquiétant. Personne ne peut l'encadrer. Il confirme l'adage selon lequel le véritable danger pour le militaire, ce n'est pas l'ennemi, mais la hiérarchie. Si Édouard n'est pas suffisamment politisé pour se dire que c'est le propre du système, son esprit va quand même dans cette direction-là. Il est brusquement arrêté dans son élan. Il vient de ramper sur 7 ou 8 mètres, guère plus, quand une explosion terrible, un obus d'un calibre insoupçonné, le cloue au sol. Peut-être que, couché par terre, ça amplifie les détonations. Il se raidit, tendu comme une perche, rigide, même sa jambe droite ne résiste pas à ce mouvement. On dirait un épileptique saisi dans sa transe. Son regard reste fixé sur l'endroit où se tenait Pradel quelques minutes auparavant, lorsqu'une immense gerbe de terre se soulève comme une vague colérique et rageuse et s'élève dans les airs. Édouard a l'impression qu'elle va l'ensevelir tellement il la sent proche, enveloppante, et elle retombe avec un bruit terrible, feutré comme le soupir d'un ogre. Les explosions et les balles sifflantes, les fusées éclairantes qui s'épanouissent dans le ciel, ce n'est presque plus rien à côté de ce mur de terre qui s'écroule près de lui. Tétanisé, il ferme les yeux, le sol vibre sous lui, il se tasse, cesse de respirer. Lorsqu'il reprend ses esprits, constater qu'il est encore vivant lui donne le sentiment d'être un miraculé. La terre est entièrement retombée. Aussitôt, comme un gros rat de tranchée, avec une énergie qu'il serait incapable d'expliquer, il rampe de nouveau, toujours sur le dos, il se hisse là où son cœur l'appelle, puis il comprend. Il est arrivé là où la vague s'est effondrée, et à cet endroit, une petite pointe d'acier perce le sol sur la terre presque poudreuse. Quelques centimètres, c'est l'extrémité d'une baïonnette. Le message est clair. Là-dessous, il y a un soldat enterré. Le coup de l'ensevelissement est un grand classique, un de ceux dont il a entendu parler, mais auquel il n'a jamais été confronté personnellement. Dans les unités où il a combattu, il y avait souvent des sapeurs avec des pelles et des pioches pour tenter de déterrer les types qui se retrouvaient dans cette mauvaise position. On arrivait toujours trop tard, on les ressortait le visage cyanosé, les yeux comme explosés. L'ombre de Pradel repasse un instant dans l'esprit d'Edouard. Il ne veut pas s'y arrêter. Agir, vite. Il se retourne sur le ventre et aussitôt, sa blessure à la jambe le fait hurler parce que, ouverte de nouveau, bouillonnante, la plaie s'écrase maintenant contre le sol. Son cri rauque ne s'est pas encore achevé qu'il gratte fébrilement, les doigts recourbés en forme de griffes. Instrument dérisoire, si le gars qui est là-dessous commence déjà à manquer d'air, il ne faut pas longtemps pour qu'Edouard s'en rende compte. À quelle profondeur est-il? Si seulement il y avait quelque chose pour racler. Péricourt se tourne vers la droite, son regard tombe sur des cadavres. À part ça, rien d'autre qui traîne, pas un outil, rien de rien. Une seule solution, parvenir à retirer cette baïonnette et s'en servir pour creuser. Mais ça va prendre des heures. Il a l'impression que le type appelle, bien sûr. Même s'il n'est pas enterré profondément, avec le boucan qu'il y a ici, aucune chance de l'entendre, même s'il hurlait, c'est un effet de son imagination à Edouard. Son cerveau bouillonne, il sent combien c'est urgent. Les ensevelis, il faut les sortir tout de suite, ou on les retire morts. Tandis qu'il gratte avec ses ongles de chaque côté de l'extrémité de la baïonnette qui émerge, il se demande s'il le connaît. Des noms des gars de son unité, des visages défilent dans sa tête. C'est incongru dans la circonstance. Il voudrait sauver ce camarade et que ce soit quelqu'un avec qui il a parlé, quelqu'un qu'il aime bien. Ça l'aide à travailler vite, ce genre de pensée. Il se tourne sans cesse à droite et à gauche, cherchant du regard une aide quelconque, mais rien. Il en a mal aux doigts. Il a réussi à dégager la terre sur une dizaine de centimètres de chaque côté, mais quand il essaye d'ébranler la baïonnette, ça ne bouge pas d'un millimètre, c'est comme une dent saine, c'est décourageant. Depuis combien de temps s'acharne-t-il? 2 minutes? 3? Le type est peut-être déjà mort. À cause de la position, Edouard commence à ressentir une douleur dans les épaules. Il ne va pas tenir longtemps comme ça. Une sorte de doute le gagne, un épuisement. Ses gestes se fatiguent, il perd sa respiration, ses biceps se durcissent. Une crampe lui vient, il tape du poing par terre, et soudain, il en est certain, ça a bougé. Ses larmes se mettent aussitôt à couler, il pleure vraiment, il a pris le bout de fer à deux mains, et il pousse et il tire de toutes ses forces, et sans s'arrêter, il essuie d'un revers de bras les larmes qui lui noient le visage. C'est devenu facile soudainement, il cesse de remuer, recommence à gratter et plonge la main pour tenter de la retirer. Il pousse un cri de victoire lorsque la baïonnette cède. Il la sort et la contemple un court instant comme s'il n'y croyait pas, qu'il en voyait une pour la première fois. Mais il la replante d'un geste rageur, il hurle, il rugit, il poignarde le sol. Il dessine un large cercle avec le tranchant émoussé et en mettant la lame à plat, il passe sous la terre pour la soulever et la chasser ensuite avec la main. Combien de temps ça lui prend? La douleur à la jambe est de plus en plus vive. Enfin, c'est là. Il voit quelque chose. Il tâte, un tissu, un bouton, il gratte comme un fou, un vrai chien de chasse. Il palpe de nouveau, c'est une vareuse. Il y met les deux mains, les deux bras, la terre s'est comme effondrée dans un trou, il sent des choses, il ne sait pas ce que c'est. Puis il rencontre le poli d'un casque, il en suit le contour, et au bout des doigts, c'est le gars. « Hé !» Il pleure toujours, Edouard, et il crie en même temps tandis que ses bras, mus par une force qu'il ne maîtrise pas, font le ménage furieusement, balayent la terre. La tête du soldat apparaît enfin, à moins de 30 centimètres, comme s'il dormait. Il le reconnaît. Il s'appelle comment déjà? Il est mort. Et cette idée est tellement douloureuse qu'Edouard s'arrête et regarde ce camarade juste en dessous de lui, et un court moment, il se sent aussi mort que lui. C'est sa propre mort qu'il contemple, et ça lui fait un mal immense, immense. En pleurant, il continue de dégager le reste du corps. Ça va vite, voici les épaules, le torse, jusqu'à la ceinture. Devant le visage du soldat, il y a une tête de cheval mort. C'est curieux qu'ils se soient trouvés ainsi enterrés ensemble, se dit Édouard, face à face. À travers ses larmes, il voit le dessin que ça ferait. C'est plus fort que lui. Ça irait plus vite s'il pouvait se mettre debout, prendre une position différente, mais même comme ça, il y arrive. Il dit à voix haute des choses très bêtes, il dit « T'en fais pas !» en pleurant comme un veau, comme si l'autre pouvait l'entendre. Il a envie de le serrer contre lui, et il dit des choses dont il aurait honte si quelqu'un les entendait, parce qu'au fond, il pleure sur sa propre mort. Il pleure sur sa peur rétrospective. Il peut se l'avouer maintenant, depuis 2 ans, combien il crève de trouille d'être un jour le soldat mort d'un autre soldat qui serait seulement blessé. C'est la fin de la guerre. Ses larmes qu'il déverse sur son camarade, ce sont celles de sa jeunesse, de sa vie. La chance qu'il a eue, lui, estropié, une jambe à tirer le reste de son existence, la belle affaire, il est vivant. À grands gestes larges, il achève de dégager le corps. Le nom lui revient, Maillard. Le prénom, il ne l'a jamais su, on disait seulement Maillard. Et un doute. Il approche son visage de celui d'Albert. Il voudrait faire taire le monde entier qui explose partout autour de lui pour écouter, parce qu'il se demande, quand même, est-ce qu'il est mort ? Bien qu'il soit allongé près de lui et que ça n'ait rien de pratique dans cette position, il le gifle comme il peut et la tête de Maillard suit le mouvement sans broncher. Ça ne veut rien dire. Et c'est une très mauvaise idée qu'il a là, Édouard, de s'imaginer que le soldat n'est peut-être pas tout à fait mort. Une idée qui va lui faire plus de mal encore, mais voilà. C'est ainsi, maintenant qu'il y a ce doute, cette question, il faut absolument qu'il vérifie. Et c'est terrible pour nous de voir ça. On a envie de lui crier « Laisse, tu as fait de ton mieux », on a envie de lui prendre les mains, tout doucement, de les serrer dans les nôtres pour qu'il cesse de bouger comme ça, de s'énerver, on a envie de lui dire des choses qu'on dit aux enfants qui ont des crises de nerfs, de l'étreindre jusqu'à ce que ses larmes se tarissent, de le bercer, en somme. Seulement, il n'y a personne autour d'Edouard, hein, ni vous ni moi, pour lui montrer le bon chemin, et dont son esprit est remonté de loin cette idée que Maillard n'est peut-être pas vraiment mort. Édouard a vu ça une fois où on lui a raconté une légende du front, une de ces histoires dont personne n'a été le témoin, un soldat qu'on croyait mort, qu'on a ranimé, c'était le cœur. Il a redémarré. Le temps de penser à ça, malgré la douleur, c'est incroyable. Édouard se hisse sur sa jambe valide. En se soulevant, il voit sa jambe droite traîner derrière lui, mais il le perçoit dans un brouillard où se mêlent la peur, l'épuisement, la souffrance, le désespoir. Il prend son élan, un court instant. Pendant une seconde, il est debout, sur une seule jambe, comme un héron. Son équilibre ne tient à rien. Il jette un regard sous lui, puis, après une respiration rapide mais profonde, il se laisse brutalement choir sur la poitrine d'Albert de tout son poids. Le craquement est sinistre. Des côtes écrasées, brisées, Édouard entend un râle. Sous lui, la terre se retourne et il glisse plus bas comme s'il tombait de sa chaise. Mais ce n'est pas la terre qui s'est soulevée. C'est Albert qui s'est tourné, qui vomit tripes et boyaux, qui se met à tousser. Édouard n'en croit pas ses yeux. Ses larmes remontent. C'est vrai qu'il a de la chance, cet Édouard, vous avouerez. Albert continue de vomir. Édouard lui tape gaiement dans le dos. Il pleure et il rit en même temps. Le voilà assis là, sur ce champ de bataille dévasté, à côté de la tête d'un cheval crevé, une jambe repliée à l'envers, sanguinolente, tout près de défaillir d'épuisement, avec ce type qui revient de chez les morts en dégueulant pour une fin de guerre, c'est quelque chose, hein, une belle image. Mais ça n'est pas la dernière. Tandis qu'Albert Maillard reprend vaguement conscience, s'époumonne en roulant sur le côté, Édouard, droit comme un i, insulte le ciel comme s'il fumait un bâton de dynamite. C'est alors qu'arrive à sa rencontre un éclat d'obus, gros comme une assiette à soupe, assez épais et à une vitesse vertigineuse. La réponse des dieux, sans doute.